Il est 7h11 sur France Culture, direction tout de suite l'avenue du président Wilson à Paris, près du pont de l'Alma. Bonjour Fabrice Gabriel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de faire cette visite de l'exposition Jean Fautrier au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris avec nous. Alors Jean Fautrier, c'est quand même un artiste majeur du XXe siècle. Il a renouvelé l'art moderne après le cubisme, très important dans les années 20 à 64. Il est mort en 1964.
Oui.
Et pourtant, il n'a eu que, je dirais, trois rétrospectives, justement dans ce musée, hein, en 1964, en 1989, et là c'est la troisième. On peut dire qu'il est assez peu connu du public français et assez peu exposé. Pourquoi donc ?
Oui, alors il est assez peu connu, je crois, parce que sa personnalité même est une personnalité solitaire. Et d'une certaine façon, même si ça peut sembler abusif, on pourrait dire qu'il a choisi ce destin d'éternel revenant. C'est-à-dire que c'est un peintre qui n'a jamais été, ou alors vraiment tout à fait à ses débuts, dans les années 20, à la mode. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de rompre à la fois avec les tendances de son époque et avec ses propres tendances passées. Donc c'est assez singulier. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'il y a eu une rétrospective ou un peu un mouvement, disons, autour de son œuvre, on a parlé de son retour. Là encore, j'ai moi-même écrit un article à son sujet en disant, d'une certaine façon, Fautrier de retour, et la presse a fait l'écho de cette espèce de redécouverte d'un peintre important. Mais on disait déjà exactement la même chose en 1989, et on a dit la même chose dans les années 60. Les écrivains qui se sont attachés à, parce qu'il y en a eu pas mal, à parler de son œuvre, à chaque fois ont signalé qu'il était nécessaire de redécouvrir. Alors c'est un peintre qu'on ne cesse pas de redécouvrir parce que c'est un peintre singulier. Et c'est, je pense, que ce qu'on va essayer de voir ensemble tout au long de cette visite, de cette belle exposition rétrospective, parce que on va le voir, cette exposition, elle est d'abord assez émouvante parce que c'est finalement assez rare qu'une rétrospective à pas mal d'années de distance puisse avoir lieu dans un même musée. Au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. C'était le cas en 1964 à la mort de Fautrier. Il est mort en 64. Il n'a pas eu le temps de visiter sa propre rétrospective, qui était un peu sa consécration. Il est mort exactement à ce moment-là. Et puis en 1989, c'est ici aussi, et je crois que bon, peut-être les esprits étaient un petit peu occupés à d'autres commémorations. Au mois de mai, juin 1989, c'était le souvenir de la Révolution française. Donc je ne sais pas si cette exposition de 1989 est passée inaperçue, mais en tout cas, ça n'a pas été le grand mouvement de réinstitutionnalisation de Fautrier.
Bon, alors, on y va. On rentre dans cette exposition. On est accueilli, Fabrice Gabriel, par deux tableaux. À gauche, trois vieilles femmes. Elles sont habillées d'un manteau qui pourrait être un manteau de laine ou un imperméable, mais ça a l'air assez épais. Bleu, bleu nuit, bleu foncé. Il y a trois nuances de bleu différents. Et puis, ce sont des femmes avec un visage marqué, ridé, trois vieilles femmes. Et puis à droite, le portrait de ma concierge. Le visage est plutôt dans des teintes verdâtres. Elle porte un corsage noir et une jupe qu'on devine, puisque c'est un buste seulement. Ses mains sont devant elle, posées l'une sur l'autre. Une jupe dans les teintes de gris. Important de parler de la lumière, important de parler de la couleur. Et peut-être avez-vous autre chose à dire déjà sur ces deux tableaux.
Ces deux tableaux, alors ils ont un statut un petit peu différent, on peut dire, parce que le portrait de la concierge est un tableau assez connu, assez représentatif de la première manière de Fautrier.
On est dans les années 20.
Hein. On est dans les années 20. C'est un tout jeune homme, hein. Il a une vingtaine d'années, il est né en 1898 et il a, ce qui est assez singulier déjà, fait son apprentissage de peintre à Londres, puisque tout enfant, à 9-10 ans, orphelin de père, il rejoint sa mère à Londres, sa grand-mère était d'ascendance britannique et il va être une sorte d'enfant prodige puisqu'il est admis à l'Académie des Arts de Londres, ce qui est assez prestigieux, alors qu'il est encore presque enfant. Et le grand peintre de ses années d'apprentissage pour lui, c'est Turner. Ce qui est assez étonnant, je reprécise ça, c'est que ces tableaux, on ne peut pas dire qu'ils nous font penser à Turner.
Non.
Ce sont des visages torturés, c'est de la peinture figurative, ce sont des portraits, on pourrait dire, de femmes du peuple. Rien n'est caché du tourment, hein, si on observe les visages, les yeux qui ont l'air perdus. Et c'est une peinture qui ferait beaucoup plus penser, je dirais, à sa voisine allemande qu'à une tradition britannique, hein, de nouvelle objectivité. Enfin, il y a quelque chose dans le choix des couleurs, effectivement cette dominante de bleu, mais aussi le verdâtre qui est tout à fait singulier dans le portrait de la concierge. Il y a quelque chose d'extrêmement fort.
D'emblée une intensité.
Il y a une intensité.
Il nous installe dans sa peinture par l'intensité.
Voilà, et de la souffrance. Et moi, ce qui me frappe, c'est évidemment une vision rétrospective, c'est peut-être moins l'expression des visages que le travail des mains. Parce que si on regarde ses mains, les mains crispées de la concierge l'une sur l'autre, ces mains un peu disproportionnées qu'on retrouve dans les trois vieilles femmes, ces mains crispées, ces mains qui semblent tenir pour l'une des trois femmes un mouchoir, comme si ce mouchoir avait servi à essuyer des pleurs, par exemple, elles ont aussi un dessin, un tourment, une forme, quelque chose qui, dans une manière comme ça de torsade, dans les effets d'ombre, de mouvement, se retrouvera dans la peinture ultérieure de Fautrier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dès l'origine un peintre figuratif, c'est aussi un peintre du mouvement, et du mouvement torturé. Et je trouve ça très intéressant chez lui.
On était, Fabrice Gabriel, au début des années 20, la crise de 29 passe par là, l'oblige à partir, à s'installer dans les Alpes. Alors ça ne l'oblige pas à s'installer dans les Alpes, mais il s'installe dans les Alpes savoyardes. Il devient moniteur de ski et gérant d'un hôtel qui contient même un dancing, une boîte
de
nuit.
Tout à fait, un dancing.
Et il se met à peindre ce qu'il voit autour de lui, notamment les glaciers,
les lacs de montagne. Alors effectivement, ce qui est là aussi assez fascinant dans la peinture de Fautrier, c'est le lien entre l'œuvre et le personnage, on peut dire, de l'artiste, parce que c'est un personnage extrêmement romanesque. Il y a beaucoup de zones d'ombre encore dans la vie de Fautrier, et je pense qu'il y a une espèce de biographie qui reste à faire, que j'aimerais faire d'ailleurs, si j'en ai le temps, parce que c'est quand même assez fou d'imaginer ce peintre qui a commencé à être un peu connu, qui s'est fait appointer par un galeriste dans les années 20, mais qui a un caractère absolument impossible, semble-t-il, donc il se fâche avec à peu près tout le monde, et qui finit par un effet comme ça d'emportement ou de rupture, par se dire « je vais à la montagne, j'arrête la peinture », et en fait il va continuer à peindre. Mais c'est assez amusant d'imaginer que ce peintre va être moniteur de ski. Et ce qu'il va peindre, alors c'est...
Pourtant, on est avant 29 même, on est en 26 là.
Oui,
donc,
parce qu'il a toujours aimé le
il y allait avant même d'être installé, disons.
Voilà. Mais cette vision de la montagne, elle est, je trouve, absolument... émouvante, parce que ce qu'il montre, évidemment, ça peut sembler un cliché, c'est un paysage de montagne, mais c'est un paysage intérieur, et c'est aussi une espèce de figuration de la peinture confrontée à la nature. Alors on voit par exemple dans ce lac bleu de 1926,
bleu mais beaucoup de gris autour.
Beaucoup de gris autour.
autour il y a les montagnes.
Voilà, comment, si le titre n'était pas là, on pourrait très bien, là aussi, imaginer quelque chose comme une représentation abstraite que j'aurais presque envie de dire de début du monde. C'est-à-dire que ce qui intéresse Fautrier, il l'a dit, dans la montagne, c'est la possibilité de la solitude et la confrontation à un mur de silence, un mur de matière, la matière de la roche, la matière de la neige, un mur de couleurs. Et on trouve ça dans le mystère d'un tel tableau. Il y a là comme une... Il y a un lac, effectivement, mais ce lac, c'est aussi un...
Il est petit, le lac, par rapport à ce qu'il y a autour.
Il est écrasé.
Il est écrasé, oui.
Ouais, par cette matière qui l'entoure et qui semble, on voit, hein, le travail si on s'approche, le travail de la matière, la toile prend de l'épaisseur. Ce n'est pas encore l'art informel avec l'enduit particulier qu'il utilisera, qu'on verra dans les années 50. Mais il y a quelque chose comme une force, je dirais presque métaphysique, de la matière. Et ça, c'est très beau. Et alors, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un petit peu oublié dans la peinture, cette idée du paysage de montagne, mais que j'ai retrouvé, alors si je peux raconter une anecdote, de façon singulière, chez quelqu'un qu'on ne s'attendrait pas à retrouver en compagnie de Fautrier, mais qui est Jean-Marc Rochette, un dessinateur de bande dessinée assez célèbre, qui a fait cette fameuse BD culte qui est le personnage, et qui est un fou de montagne, et que j'ai rencontré parce que, comme moi, il vivait à Berlin, et pour lequel j'ai même organisé une exposition de tableaux, parce qu'il fait aussi des tableaux. Et la première fois que j'ai vu ces tableaux, j'ai été séduit parce que ce sont des paysages de montagne. Et je lui ai dit, mais c'est fou, je retrouve là quelque chose de Fautrier. Et il m'a dit, tu es une des rares personnes qui me parle de Fautrier. Fautrier est mon maître, et ma mère l'a très bien connu. Ah, et donc, voilà.
Très jolie anecdote. Et d'ailleurs, Fabrice Gabriel, de la même façon que vous avez retrouvé Fautrier grâce à Rochette, vous avez retrouvé du Fautrier, et pas n'importe quel Fautrier, puisqu'il s'agit du Grand Sanglier, dans une œuvre que vous êtes en train de lire, une œuvre d'un écrivain.
Oui, d'un écrivain très contemporain, et qu'on, là aussi, on ne s'attend pas forcément à retrouver dans les parages de Fautrier, puisque c'est Simon Liberati.
Mais ça fait le lien quand même aussi entre vous, Fautrier et les écrivains, puisque c'est par les écrivains que vous avez connu Fautrier.
Absolument.
Fautrier qui était donc très très lié aux écrivains, notamment à Éluard, à Bataille et à Jean Paulhan.
À Jean Paulhan et puis à Francis Ponge aussi. Effectivement, on a souvent dit, et je pense que c'est vrai, que Fautrier est un peintre pour écrivains. Et ce qui peut expliquer d'ailleurs aussi l'espèce de méconnaissance de la part du public, parce que il y a eu toujours un jeu entre ces commentateurs célèbres, ces écrivains, à commencer même par Malraux, hein, et l'artiste. Et on aurait pu presque considérer que sa peinture était faite pour eux, d'une certaine façon, dans un dialogue entre l'artiste, le peintre, et l'écrivain.
Et c'est pas vrai. Mépris.
Je crois que ça n'est pas vrai. Mais je crois que les grands écrivains, les grands poètes, comme Francis Ponge en particulier, et Jean Paulhan lui aussi, hein, avec son fameux essai Fautrier l'enragé, ont toujours eu besoin, c'est la vieille histoire aussi peut-être de Baudelaire et de Lacroix, ont toujours eu besoin d'avoir peut-être leur peintre, je dirais presque leur peintre à demeure, pour être eux-mêmes de grands écrivains. Il y a quelque chose dans la stature de l'écrivain qui fait que on aime le compagnonnage d'un artiste. Et ça s'est passé vraiment pour Fautrier. Et c'est un peu comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs, en lisant, en m'intéressant longtemps au rapport entre l'écriture et la peinture, et à Georges Braque autrefois, et René Char, et voilà, et on tombe forcément à un moment ou à un autre sur Fautrier.
Et là, c'est dans un des derniers livres de Simon Liberati.
De Simon Liberati, Les Rameaux Noirs. Et alors, on sait que bon, Simon Liberati, il a un rapport à une mythologie qu'on peut imaginer beaucoup moins naturelle. Son affaire ne sont pas tellement les paysages de montagne ou les animaux, d'une certaine façon. C'est la mythologie californienne, Jane Mansfield, Hollywood, enfin voilà, l'Hollywood noir. Et je lisais hier, vraiment, en venant ici à Paris pour faire avec vous cette visite, donc une page des Rameaux Noirs, et je tombe sur une allusion à Fautrier. Simon Liberati raconte à quel point, on le sait, il a été fasciné par l'accident de Jane Mansfield, les images du cadavre, etc. C'est vraiment sa mythologie. Et il dit que lorsque j'écrivais ça, j'étais obsédé par le sanglier de Fautrier. Et j'étais très surpris de voir ça, et en même temps, ça montre à quel point, même s'il n'est pas si connu, Fautrier est peut-être un peintre qui peut avoir une place dans notre histoire ou dans une forme de remythologie, si on peut dire ça comme ça, contemporaine.
Ce grand devant le sanglier, c'est le grand sanglier noir qui est dans la grande période dite noire, précisément, de Fautrier, en 1926.
Voilà, alors c'est un écorché, on le voit, c'est très noir. Oui. Fautrier s'est moqué lui-même de sa propre période noire en disant, avant-guerre, j'ai fait de la peinture chocolat. Enfin, sans être dans le reniement, il a toujours été dans une forme de on ne peut pas dire d'autocritique, mais de départ, de redépart par rapport à son œuvre. Ce sont des périodes successives dont il se détache à chaque fois. Ici, c'est un sanglier, un grand sanglier. C'est une toile d'assez grand format, hein,
alors que les tableaux, par les pieds, hein, écorché donc.
Écorché. Et ce qu'on voit, ce sont les viscères.
Enfin, il est ouvert en deux.
Et ce qui est frappant, enfin moi, ce qui me frappe, au-delà effectivement du rapport à toute une tradition de la peinture, de ce type de représentation, c'est à quel point ce sanglier, il fait penser à la fois à un Christ, parce qu'il a représenté un Christ en croix qui ressemble à un écorché, et il ressemble surtout à une figure humaine. C'est ce qu'on va voir dans un instant, c'est l'homme ouvert qui est déjà annoncé dans le grand sanglier noir. C'est la question traditionnelle on pourrait dire, de la représentation de l'âme. Sans faire de projection abusive, je crois que ce qui est intéressant dans le travail de peintre comme Fautrier, qui n'est jamais dans ses propres commentaires explicitement métaphysique, mais je crois que c'est la confrontation à une sorte de possible ailleurs spirituel. La peinture, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre une surface, et ça nous oblige à deviner ce qu'il y a derrière cette surface. Et ce qui est intéressant entre autres chez Fautrier évidemment, et dans ce tableau en particulier, L'homme ouvert.
Qui a quand même donné votre titre
de
livre, L'homme ouvert.
C'est que justement, on est devant un personnage, un peu comme le sanglier.
Sauf que là, la tête est en haut, il est de pied.
Voilà.
Il est debout, disons.
Oui, le sous-titre, c'est l'autopsie. Et ce qu'on voit à l'intérieur du corps, c'est une possible figuration. Alors, c'est ma propre rêverie, sans doute. C'est une propre figuration de l'âme, mais de l'âme absente et présente parce que absente, dont l'absence est signifiée par le dessin des intestins. C'est ça, ce qu'on voit, une espèce de zigzag comme ça des intestins qui a un effet de choc et qui était fait d'ailleurs ce dessin pour choquer en particulier les convives de Jean Paulhan, parce que ce tableau a été très longtemps dans la salle à manger de Jean Paulhan, en particulier pendant l'occupation, et il faisait passer une sorte de test à ses invités qui étaient Paul Éluard, André Malraux lui-même, en leur demandant ce qu'ils pensaient de ce tableau. Et ce tableau test, j'avais écrit un passage de mon livre qui s'appelle L'homme ouvert. Je peux vous en lire un extrait pour expliquer un peu en quoi ce tableau est vraiment fascinant.
Juste avant que vous lisiez un extrait, Fabrice Gabriel, on peut juste dire un mot des couleurs.
Oui.
Sauf si dans votre texte...
Oui, non, mais bien sûr, c'est ce qui se passe, c'est qu'ici, d'une certaine manière, alors c'est un tableau de 1928, la classification par période est toujours un petit peu arbitraire, mais on peut dire qu'on sort par là de la période noire. C'est-à-dire que...
Le fond reste noir.
Reste noir, mais il y a comme une lumière, alors ce corps que l'on voit, de ce personnage, les yeux fermés, le ventre ouvert, il est d'une couleur entre le rose et l'orange, avec du rougeâtre aussi, pour relever le dessin des viscères, disons, et cette couleur, ça sera aussi celle qu'on retrouvera, par exemple, dans les têtes d'otages dont on va parler dans un instant. Il y a quelque chose comme de la lumière et de la couleur qui entre ici. Et cette question de la couleur, de la lumière, très importante pour Fautrier.
Voilà. On vous écoute.
Regardons l'homme ouvert. Nous sommes loin encore des otages. 1928, une année de nu et de paysage. Dans la proximité de quelques Christ qu'aimera Baselitz. Patience. Un homme est debout, les yeux clos, dans le noir étrange d'une mort qui semble dormir alentour. Un mort debout, c'est cela. Le ventre ouvert par un ovale rouge, il n'a qu'une ombre de sexe. Ses jambes et son bras droit sont coupés par le cadre. Le tableau s'appelle aussi l'autopsie. C'est cela, bien sûr. Le masculin de la mort. Et c'est tout autre chose. Une présence qui offre à voir ses tripes, avec style. Le slalom, encore, déjà, des intestins qui nous disent « il n'y a rien ». Pas d'organes dans le ventre de l'homme, mais la signature en zigzag d'une intériorité vide. Zorro est nu, et son visage ressemble étonnamment à celui de Sade, un Sade au sexe flou, posé droit sur le linceul de la toile. Le regard s'arrête au lacet qui dessine dans son tronc une piste interrompue. On y voit le tracé des herbages, peint 20 ans plus tard, et déjà cette beauté noire, striée à vif sur la fin, en 1963. Patience. L'homme ne nous voit pas. Nous sommes sûrs maintenant qu'il s'agit de Sade, pure matière épinglée sur un linge noir, corps creux et sans Christ. Seuls ses boyaux se signent, et c'est un S, sûrement, qui descend vers le sexe. L'homme est fermé, pourtant. Son œil appelle la lumière. De quel mystère ! Peut-être y a-t-il un ailleurs du sommeil, au-delà de cette fausse mort rougeâtre, dans l'ovale qui découpe au centre de la toile un médaillon de chair chirurgicale. Rien n'est sûr. C'est l'énigme du corps, dedans, dehors. Osera-t-on dire que toute la peinture de Fautrier est déjà là ? Là, dans l'impossible écorchure qui fait communiquer le secret intérieur et la peau du tableau, sa texture offerte au toucher, bientôt. Ce que cherche le peintre dans le tronc de Sade, c'est son âme. Pour la trouver, il lui faudra réinventer la matière, se faire en passant l'apôtre de l'informel, aller jusqu'au buvard ultime de son œuvre peint. Comme un sphère sans couture, enfin.
Voilà. Je vous propose, Fabrice Gabriel, qu'on termine ce premier temps avec vous sur cette lecture de L'homme ouvert, inspirée par le tableau de Fautrier, L'homme ouvert. Vous avez parlé des otages. On se retrouve juste après les titres de l'actualité pour parler précisément des otages. A tout de suite, dans 2 minutes. France Culture, il est 7h30. Les titres de l'actualité présentés par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. Kim Jong-un qui suspend ses tirs de missiles et essais nucléaires. Le dirigeant nord-coréen renonce temporairement à son programme de dissuasion, au moins le temps de donner une chance à la diplomatie. Il doit rencontrer ces prochaines semaines le président de Corée du Sud, puis Donald Trump, pour qui cette annonce de Pyongyang est une très bonne nouvelle. Le Liban accueille plus d'1 million de réfugiés syriens. Certains sont maltraités, discriminés, exploités. expulsés de leur logement. C'est le triste constat dressé par l'ONG Human Rights Watch et sur lequel nous reviendrons dans le journal de 8h avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stéphan. En Afrique du Sud, l'épreuve du feu social pour le nouveau président Cyril Ramaphosa. Il est confronté à des manifestations d'ampleur dans le nord-ouest du pays où le système de santé publique a été ruiné par des affaires de corruption au sein du parti présidentiel. En France, les députés se préparent à passer tout le week-end sur l'examen du projet de loi Asile et Immigration. 27 articles sur 40 restent à discuter, avec des centaines d'amendements déposés par l'opposition. 40 projets nominatifs déposés hier en préfecture de Loire-Atlantique. C'est le geste d'ouverture des zadistes qui ont donc accepté ce que leur demandait l'État. Ils ont déposé des projets d'activité sur la ZAD, pour la plupart des projets agricoles, mais aussi pour certains centrés sur la culture ou sur l'artisanat. Dans le journal de 8h, nous entendrons également les syndicalistes de PSA solidaires de leurs collègues allemands. Le groupe automobile français a racheté l'été dernier Opel, que le grand patron de PSA, Carlos Tavares, veut à présent forcer à supprimer 3700 emplois. Enfin, dans une demi-heure, nous évoquerons la stratégie média d'Arnaud Lagardère, prête à vendre elle et d'autres magazines de son groupe de presse à un patron tchèque. Il ne devrait au final conserver Arnaud Lagardère qu'Europe 1, Paris Match et le JDD.
Donc le développement de tous ces titres dans le journal de 8h. À tout à l'heure, Camille Magnard. Je vous rappelle qu'à 7h40, la fabrique médiatique portera sur les consortiums de journalistes comme planche de salut de l'investigation et que dans un instant, nous reprendrons notre visite de l'exposition consacrée à l'artiste Jean Fautrier au musée d'art moderne de la ville de Paris en compagnie de l'écrivain Fabrice Gabriel, directeur du bureau du livre à l'ambassade de France de Berlin, l'un des rares écrivains à avoir dédié un livre à Jean Fautrier. C'était en 2002.
Sous les pavés et la radio, une semaine placée sous le signe de mai 68 sur France Culture. Histoire, philo, documentaire, trois manières de revenir sur 68, 50 ans après. Le choc des idées, choc des mondes et onde de choc en France et dans le monde. Au rendez-vous de la Fabrique de l'Histoire à 9h05, des chemins de la philosophie des 10h et de LSD, la série documentaire à 17h. Mai 68 s'invite de lundi à jeudi sur France Culture, série à retrouver sur franceculture.fr.
Et on vous retrouve, Fabrice Gabriel, comme promis, devant ce mur des têtes d'otages de Jean Fautrier. On est toujours au musée d'art moderne de la ville de Paris. On a avancé, on a marché, on a traversé des forêts, on a traversé des dessins, on a traversé un film. L'exposition contient quelques 200 œuvres, donc elle est immense. On s'est arrêté devant ces têtes d'otages qui sont parmi les toiles les plus importantes, les peut-être les plus fameuses, hein,
oui,
de Jean Fautrier,
absolument,
qui ont fait beaucoup couler d'encre aussi.
Oui, alors il faut dire que c'est effectivement une série, c'est Têtes d'otages numérotées. C'est sans doute effectivement l'œuvre ou la série d'œuvres la plus célèbre de Fautrier, dont il faut rappeler très rapidement le contexte de création. C'est que Fautrier, au début de la guerre, est revenu à Paris et assez rapidement, il a logé à Châtenay-Malabry dans une dépendance d'un hôpital psychiatrique où il a installé son atelier. Et c'est là, selon ce que certains considèrent comme une légende, qu'il a peint ses têtes d'otages en étant frappé, traumatisé même, par les cris qu'il aurait entendus d'otages torturés par les Allemands dans la forêt voisine. Alors, certains ont dit, peut-être n'y avait-il pas vraiment d'otages prisonniers des nazis, mais était-ce seulement les cris, par exemple, des malades mentaux qu'il entendait. J'ai envie de dire, peu importe, on a là une sorte de témoignage d'une violence, évidemment, de l'époque, qui se traduit par, surtout, et c'est ce qui a frappé à l'époque, une matière nouvelle, enfin, qu'a expérimenté dans les années précédentes Fautrier, mais qui trouve ici une forme de réalisation particulièrement frappante, c'est-à-dire que ces têtes d'otages, elles sont souvent assimilables à des profils dont, si on s'approche des tableaux, on voit qu'ils sont des profils de pure matière, c'est-à-dire que la technique de Fautrier à partir de ce moment-là, c'est d'enduire un papier de plâtre et de travailler sur ce plâtre avec de la peinture, des incisions, pour créer cet effet de relief tout à fait singulier, et ensuite l'ensemble est, comme on dit, marouflé sur toile pour qu'on puisse le voir tel qu'il est aujourd'hui et que ça puisse durer davantage que le papier. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on a là des profils qui sont à la limite de l'abstrait et qui expriment une très forte, du fait de leur matière même, une très forte violence, mais une violence, et ça aussi ça a été un des éléments du commentaire dès leur exposition, qui est je ne sais pas si on peut dire tempéré, mais en tout cas étrangement interrogé par une certaine joliesse des couleurs.
Oui, c'est-à-dire ce qui a fait dire à Malraux que c'était complaisant, voilà, qu'il y avait une forme de complaisance.
Il y avait une forme de complaisance dans le rose, dans les verts assez tendres qui apparaissent.
Alors Fabrice Gabriel, après cette série des otages, on entre dans une avant-dernière période qui est la période après la guerre, ouais, où Fautrier commence à peindre une série d'objets. Alors pas n'importe quels objets, pas des objets de valeur, mais plutôt des objets standardisés, voire industrialisés. Mmh. D'ailleurs, il leur donne des noms qui sont plutôt des noms humoristiques et très très variés. Ouais, on a des verres, on a un moulin à café, on a des boîtes de conserve, des boîtes en carton. Mmh. On a toutes sortes d'objets qui sont pourtant représentés de façon assez abstraite. Hein.
Ouais, et là, ça me plaît que vous disiez effectivement qu'il y a une
dimension
humoristique, ou en tout cas, parce qu'il y a quand même, parfois, les gens qui n'aiment pas trop Fautrier trouvent qu'il fait l'intéressant, qu'il fait le beau, qu'il est dans la provocation, ce qu'il a effectivement toujours été, avec presque une forme de mauvais goût. Mais je crois qu'il y a chez lui beaucoup d'humour aussi, un humour un peu singulier. Mais si on voit certains titres de ses tableaux, là, on passe devant un autre tableau qui s'appelle Ouadada. Il y a toute une série qui est intitulée « Paysage si l'on veut ». Et il a fait suivre les titres de tableaux de cette formule « si l'on veut » pour bien montrer que voilà, le titre peut être un clin d'œil de l'artiste, mais d'une certaine façon, le tableau appartient aussi au spectateur.
Et puis vous disiez au début de cette visite, Fabrice Gabriel, que finalement, Fautrier était dans un éternel retour. C'était l'homme qui revenait.
Absolument.
C'est aussi un homme qui revient sur un certain nombre de motifs, de thèmes. Au début, il y avait les glaciers, mais on aurait pu s'arrêter sur des forêts, sur des arbres, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'œuvre finale, hein. Les arbres et la forêt, avec un passage devant lequel nous sommes là, qui est une garrigue. Allez, vous aimez beaucoup cette garrigue de 1956.
J'aime beaucoup cette petite garrigue de 1956.
Dans les tons de bleu et de vert.
Voilà. Alors, on retrouve effectivement cette palette, disons, d'après-guerre. Ici, on est devant ce qu'on n'identifierait pas forcément comme une garrigue s'il n'y avait le titre. C'est une toile, on pourrait dire, presque abstraite. Mais ce qui me fascine en elle, alors c'est assez petit format, hein, on le répète, les tableaux de Fautrier sont souvent assez petits, c'est un peu la condensation d'un mouvement qu'on retrouve tout au long de son œuvre. Son œuvre est faite de ruptures qu'il a assumées, mais aussi d'une espèce d'inspiration comme ça de la forme, ce qui est paradoxal pour un peintre qui a théorisé de façon pas toujours très claire l'informel. Là, il y a une forme, un mouvement, un dessin qu'il emprunte à la nature, mais qui aussi, hein, on retrouve cette espèce de zigzag, comme dans les viscères de l'homme ouvert, comme dans les forêts, comme la représentation de l'enfer de Dante pour laquelle il a fait des illustrations. Voilà, il y a comme dans ce mouvement, dans ce zigzag, je dirais, la volonté de se fuir et de se retrouver d'une certaine manière. Et je trouve ça très beau. C'est comme si, d'une certaine manière, la main ne pouvait pas s'arrêter de refaire sans cesse ce mouvement.
Et puis ce petit tableau Lagarrigue est entouré de deux autres un petit peu plus grands, avec des titres anglais, Frozen Lakes, qui rappellent donc les lacs glacés de montagne, et Sunset in Alabama, qui dit aussi son
rapport à la musique éventuelle, en tout cas au jazz. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la musique, Debussy, le jazz. C'est un artiste provocateur, mais qui n'avait pas si mauvais goût.
Merci beaucoup, Fabrice Gabriel.
Merci beaucoup à vous.
L'exposition Jean Fautrier est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris jusqu'au 20 mai et je renvoie les auditeurs qui le souhaiteraient au site AOC pour lire l'article très intéressant que l'écrivain Fabrice Gabriel a écrit sur Jean Fautrier. À la prise de son, c'était Olivia Branger.